Avant de trouver ma place dans l'engagement avec mes différents projets, une question m'obstinait. Comment faire de mon métier un vecteur de transition sociétale? Comment avoir un impact et faire ma part au quotidien? Si vous écoutez Nouvel Oeil, vous vous posez certainement aussi ces questions-là. Et si j'ai choisi la Green Management School pour soutenir mon podcast, c'est parce que ça peut réellement vous aider à vous y retrouver. Se former au métier de la transition écologique, ce n'était pas si accessible il y a quelques années, mais ça l'est aujourd'hui. Ça l'est tellement que l'on ne sait plus qui croire, quelle formation entreprendre, ni ce que ça vaut. Alors j'ai fait les recherches pour vous, et j'ai trouvé l'école que j'aurais tant aimé faire il y a quelques années, quand j'étais paumée. Des cours approfondis sur le climat, la biodiversité, l'agronomie, la géopolitique, mais aussi sur les modèles économiques vertueux. Le tout dispensé par des spécialistes et des personnalités inspirantes. Créer un autre lendemain que celui qui s'annonce, c'est leur mantra. Et derrière cette idée, la mission de Green Management School est de former de nouveaux managers capables de transformer les entreprises et les organisations de l'intérieur. Toutes les informations sont en description. Merci à Green Management School de croire en Nouvel Oeil en soutenant cette saison de podcast. Tout de suite, place à un nouvel épisode. Hello, je suis Victoria et je te souhaite la bienvenue sur Nouvel Oeil. Chaque semaine, je tends mon micro jaune à une personne qui m'inspire pour poser mes questions sur ce qui fait nos vies. À travers le parcours audacieux de mes invités, je questionne la confiance en soi, l'écologie, le sens d'une vie, l'amour, la liberté, bref, autant de sujets qui traduisent un monde qui bouge et qui rythme nos vies. Alors je t'invite à emprunter un nouvel œil pour regarder le monde sous un autre angle. Pour te recentrer sur ce qui est essentiel et sur qui tu es pour t'aider à trouver ton chemin et surtout, à oser. Je pense qu'il y a des choses comme ça, des événements marquants dans une vie qui nous tombent dessus qu'on ne peut pas prévoir en fait, qu'on ne peut pas mentaliser. Ça peut être une rencontre, ça peut être un feu rouge qui passe au vert, qu'on n'a pas prévu et qui chamboule toute une vie. Et je pense qu'on a tous plus ou moins ces moments dans une vie. Il faut juste ouvrir les yeux pour les voir, leur laisser de la place, chose qu'on a du mal à faire. Voilà 4 années que j'ai tendu mon micro jaune pour la première fois. C'était en octobre 2019. J'étais hésitante, maladroite et peu confiante. Mais j'avais cet élan, celui qu'ont les enfants, irrationnel, passionnel, salé d'un peu d'insouciance et de naïveté. Cet élan a finalement pris le dessus sur les doutes et l'illégitimité pour enfin rencontrer Pablo Servigne, mon premier invité sur Nouvel Oeil. C'était en octobre 2019. Depuis, mon logo a changé, ma voix s'est posée, les écoutes ont grimpé et ce sont plus de 150 invités qui ont reçu mon micro jaune à ce jour. Avec eux, c'est tout de ma vie qui s'est transformé. Alors pour figer ces 4 années de transformation, j'ai voulu publier cette interview brillamment conduite par Juliette sur carte blanche. Elle a réussi à me faire parler comme peu l'ont fait, et elle a su rétrospectivement tracer mes dernières années comme je n'ai jamais eu le courage de faire. À son micro donc, je parle d'aventure, de joie et d'engagement. J'espère que cette écoute te donnera l'élan du « tout est possible ».
Carte blanche radio. Carte blanche.
Bonjour et bienvenue, vous êtes sur Carte blanche depuis Promenade Sainte-Catherine au cœur de Bordeaux pour un nouvel épisode de Portrait. Aujourd'hui, on reçoit Victoria Guillaumont.
Carte blanche.
Alors, comment définir Victoria Guillaumont? Au début de mes introductions, en général, j'ai l'habitude d'apposer au nom de mon invité un titre qui définit sa compétence ou ses compétences, musicien, chanteur, photographe. Ici, la liberté de Victoria, c'est justement d'aller là où on ne l'attend pas, de voir à travers ses engagements l'opportunité d'explorer, de découvrir, mais surtout d'essayer. Difficile donc de la limiter à une ou plusieurs disciplines, mais en essayant, Victoria a écrit un livre, elle a sorti un podcast, elle a donné de nombreuses conférences et se prépare actuellement à une aventure exceptionnelle dont on va parler. Ce déclic, il part d'un voyage qui se révélera plus tard être initiatique, un voyage en Inde, l'impact d'un séisme dans la vie de la jeune étudiante qui décide à son retour de remettre en question le système, les schémas que l'on nous impose. Elle décide d'écrire pour sa génération, cette génération prise entre deux feux, l'urgence climatique et ce système moderne étriqué qui ne laisse pas la place au rêve à travers un livre assez explicite, ce qu'on n'apprend pas à l'école. Le récit cartonne et dans l'objectif d'aller plus loin dans sa réflexion et d'y inclure plusieurs récits, c'est à 22 ans qu'elle lance le podcast Nouvel Œil. Alors la pluie de témoignages, Mathieu Ricard, Christophe André, Marion Poitvin, Augustin Trapenard, Jacques Attali, Claire Nouvian se sont exprimés au fameux micro jaune de Nouvel Œil. Aujourd'hui, à tout juste 25 ans, Victoria prépare la sortie de son second livre aux éditions Fayard. En plus d'être écrivaine, d'être podcasteuse, c'est la profession de réalisatrice qu'elle aborde aujourd'hui à travers le grand et beau projet de Chimla qu'elle va nous raconter. Bonjour Victoria.
Bonjour Juliette. Waouh, quelle introduction. J'ai l'impression que tu décrivais une autre personne que moi.
Non, c'est bien toi. Je t'assure, c'est bien toi. Je te remercie vivement d'être avec nous aujourd'hui. J'aimerais avec toi revenir sur cette question, celle de la pluralité des disciplines que tu abordes via tes engagements. Écrire, parler, bientôt réaliser. Mmh. Je parlais de liberté. Il y a une liberté à tout tenter, à tout explorer. Comment tu l'as cultivée, cette liberté?
Waouh, quelle question. Écoute, je crois qu'elle est intrinsèque en moi depuis que je suis toute petite. Je me l'avouais peut-être pas, je le conscientisais pas quand je grandissais parce que naturellement on essaie de nous mettre un petit peu dans les cases et puis de faire en sorte qu'on se pose pas trop de questions. Donc bon, j'essayais d'être la petite fille parfaite, excellente à l'école, qui enchaîne les 20 sur 20 et puis qui ramène les meilleurs bulletins à la maison pour décrocher un beau diplôme et peut-être après trouver le beau CDI. Et donc j'ai jamais vraiment conscientisé cette envie et cette soif de pluridisciplinarité, mais par contre, très vite, j'ai ressenti comme un emprisonnement quand on me disait « mais qu'est-ce que tu veux faire plus tard ? Il faut que tu choisisses un métier, il faut que tu construises ta vie ». Moi, toutes ces questions-là, elles me mettaient une pression sur les épaules que j'avais vraiment du mal à supporter, et je me demandais comment les gens faisaient pour supporter une telle pression et pour répondre à ces questions. Et ça a été, je pense, les prémices, c'est même pas je pense, c'est sûr, c'est les prémices de mon envie d'aller questionner le monde avec mon podcast Nouvel Œil, pour aller en fait demander ces questions-là à des personnes qui aujourd'hui ont un certain recul sur la vie, qui sont épanouies dans leur engagement, dans leurs rêves, qui ont osé prendre des chemins de traverse pour vivre en liberté. Et donc ça a été un petit peu les débuts de tout et la porte ouverte vers une grande liberté, ouais, dans ma vie.
Mais justement, c'est fou parce que tu parles de ce recul qui est nécessaire à appréhender son avenir professionnel. Comment toi, à 20 ans, je parlais aussi de ce voyage en Inde qui a été quand même assez, qui a eu un impact fort,
catalyseur,
je pense, voilà, dans cette réflexion. Mais comment ce recul, tu as réussi à l'avoir aussi tôt? Parce que moi, tu vois, ces questionnements, en me renseignant un petit peu sur Victoria Guillaumont, je me suis dit, sont apparus lors de ce voyage qui a été initiatique. Mais finalement, je découvre maintenant qu'elles ont été là bien avant ce voyage, finalement. Et ce recul que tu as eu, il est assez exceptionnel, moi, je trouve, pour quelqu'un de ton âge.
Je crois que je crois au destin, en fait. Et je pense qu'on est tous avec un chemin qui nous est prédestiné. Et le mien, j'ai peut-être essayé de l'éviter le plus possible parce qu'il est vertigineux quand même. L'engagement, c'est devenu le centre de ma vie. Et il est tellement atypique que j'osais pas lui laisser prendre sa place. Mais il est revenu naturellement, en fait. Plus j'essayais de le repousser, plus j'essayais de me conformer, plus il me rappelait. Et donc, je l'ai toujours eu en moi, je pense. Mais le voyage en Inde, en effet, quand j'avais 18 ans, ça a été une mise à nu, en fait. Je pouvais plus regarder ailleurs, je pouvais plus faire semblant, je pouvais plus mettre des masques, je pouvais plus me dire que j'allais construire ma vie de façon parfaite parce que c'était trop fort, en fait. C'était plus fort de vivre, d'aller cultiver l'audace et la liberté, comme on disait, et les projets un peu farfelus pour l'engagement et pour l'éveil des consciences. Et je pense qu'il y a des choses comme ça, des événements marquants dans une vie qui nous tombent dessus qu'on peut pas prévoir, en fait. Qu'on peut pas mentaliser, qu'on peut pas rationaliser. Ça peut être une rencontre, ça peut être un feu rouge qui passe au vert, qu'on n'a pas prévu et qui chamboule toute une vie. Et je pense qu'on a tous plus ou moins ces moments dans une vie. Il faut juste peut-être ouvrir les yeux pour les voir, leur laisser de la place, chose qu'on a du mal à faire. Mmh. Et très jeune, je me suis autorisée à faire la place à ces petits moments qui préviennent pas et qui construisent une vie, finalement.
Qu'est-ce que tu as vu en Inde pendant ce voyage ? Qu'est-ce que tu as vu qui a éveillé ta conscience ?
Leur mode de vie et leur conscience, justement. Parce que j'étais donc pendant 2 mois dans les bidonvilles avec des enfants qui n'ont pas nos privilèges et qu'on me présentait toujours comme très pauvre. Et moi, ça me faisait peur d'y aller, je vais pas mentir. Hein, j'étais terrorisée à l'idée de partir en Inde. Et c'est justement cette peur qui me boostait, je pense, à vouloir y aller. Et en fait, quand je suis arrivée dans ces bidonvilles, oui, j'ai réalisé qu'ils étaient pauvres de la pauvreté qu'on décrit en Occident, c'est-à-dire d'un point de vue matériel. Donc ils n'ont pas tous les privilèges qu'on a, ils savent même pas s'ils vont manger à leur faim ce soir, et bien souvent ils ne mangent pas à leur faim. Mais par contre, ils ont une autre richesse, qui est celle du partage, de la profondeur des échanges, des valeurs, des vraies valeurs, et de l'amour surtout. Et moi, ça m'a poignardé, je pense, de voir des yeux aussi profonds, aussi purs, dans lesquels on peut se perdre de confiance de suite. On se pose beaucoup moins de questions qu'on peut se poser en France, par exemple. En tout cas, moi, ça a été le cas. J'avais moins peur de pas être à la hauteur ou de pas porter le masque qu'il faudrait que je porte. Et en fait, je me suis complètement détachée du regard des autres, en tout cas en grande partie grâce à ce voyage, parce que j'ai compris que des gens pouvaient nous accepter tout simplement tel qu'on était, à vide, à nu, nous-mêmes, au naturel. Et je crois que c'est ce qui m'a profondément bouleversée, en fait, de voir cette autre facette de la réalité que je connaissais pas avant.
Tu t'adresses à la génération des millennials, c'est-à-dire à cette génération qui, je le disais, donc est prise entre deux feux, l'urgence climatique et puis ce système qu'on lui impose qui est assez, désuet finalement. Mmh. Comment tu as réussi à trouver aussi cette légitimité pour toi-même te dire, et c'est une question qui est importante, toi-même te dire je vais pouvoir m'adresser à cette génération. Comment ça s'est déroulé exactement ce récit? Ce raisonnement de chercher effectivement d'aller au-delà et de s'adresser à ces personnes qui ont les mêmes problématiques finalement, mmh. c'est-à-dire chercher un avenir dans toutes ces conditions qui sont plutôt instables aujourd'hui.
Ouais. Ben écoute, cette question de légitimité, je me la pose toujours. J'ai toujours un énorme syndrome de l'imposteur. Je me demande pourquoi je fais ça. Je me dis toujours que d'autres personnes le feraient bien mieux que moi et que c'est pas mon rôle de le faire. Mais je crois que l'engagement, c'est quelque chose de très viscéral qu'on ressent en soi et qu'on ne contrôle pas, en fait. Et pour moi, c'est presque urgent, en fait. Quand tu comprends les enjeux qui sont ceux de notre époque et que tu vois à quel point, en fait, l'éveil, ça peut transformer à la fois nos vies personnelles et plus largement l'état du monde. Aujourd'hui, ben, tu peux pas faire autrement que d'essayer de porter ton engagement. Même si c'est maladroit, même si d'autres personnes, effectivement, le feraient mieux que moi ou que nous, tu le fais quand même parce que tu te dis que ça restera une petite graine et qu'importe ce que penseront les gens.
Mais au contraire, en plus, c'est un véritable appel à essayer. C'est ce que je disais, c'est une ode à tenter, à essayer. Et c'est ça ce que ça montre. Et j'ai l'impression que c'est vraiment un des apprentissages, c'est d'essayer d'écrire, mais de réussir à écrire. Parce que vraiment, tu as eu, en plus, on en parlera plus tard, une reconnaissance qui est extrême. C'est-à-dire tu as signé aux éditions Fayard.
Oui, c'est fou, je réalise toujours pas.
Oui, c'est ça, c'est une belle reconnaissance. Et quand je parle effectivement de légitimité, c'est plus pour dire tu as réussi, je pense, à nous donner à nous cette légitimité à tenter. C'est cette
en effet,
ode
c'est...
à oser.
Ouais, c'est une ode où tout est possible, t'as raison. Et c'est une phrase qui peut paraître un peu bateau, tu vois, tout est possible. Et puis on parle beaucoup de méritocratie ou de personnes qui sont plus ou moins aidées dès la naissance. Et je crois que je suis, en tout cas en toute humilité, peut-être un exemple de oui, tout est possible et en fait on n'a pas besoin d'avoir un carnet de contacts bien chaud, d'habiter à Paris, d'avoir des ministres dans notre carnet d'adresses pour en fait réaliser des choses folles et assez immenses qui nous dépassent, parce que mes parents sont agriculteurs, j'ai grandi là voilà à 40 minutes de Bordeaux au fin fond de la campagne et en fait je me suis donné les moyens de vivre tout ce que je vis et certains disent elle a de la chance, mais cette chance je suis vraiment allée la chercher et il y a beaucoup 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 de travail et de sacrifice derrière tout ce que je fais aujourd'hui et je pense même que c'est quelque part le sacrifice d'une vie quoi mais je crois beaucoup en la force de la persévérance. En tout cas les choses ne tombent pas du ciel et je dis toujours que si je le fais, tout le monde peut le faire et c'est aussi un message que j'ai envie de faire passer voilà, on peut sortir de la campagne, avoir des rêves plus forts que soi et tout faire pour les réaliser. Même si je conscientise qu'il y a une part de chance aussi, mais je crois aussi à une forme beaucoup plus spirituelle de la chose qui est que quand on est pleinement aligné avec ce qui est juste pour nous, les pièces du puzzle s'alignent en fait assez magiquement. C'est trop beau de voir ça.
Mais tu en parlais et justement il y a ce ton qui aide, il y a cette légitimité que tu as eue qui a aidé énormément et il y a ce ton qui aide, c'est ce ton de cette transparence que tu as à dire autant qu'un projet te sert, autant qu'il est galvanisant, mais autant qu'il est difficile. Et je crois que c'est un discours aussi qui a été assez rare, qu'on nous a pas forcément montré, mais ce ton il est extrêmement aidant justement pour cette génération.
Ben, merci de le souligner et je suis heureuse que ça se ressente parce que justement, je sais que ça peut être très culpabilisant de voir toujours les réussites et un petit peu la face émerger de l'iceberg. Et, mais en tout cas, ça a été autant des inspirations de voir des personnes réaliser des projets grandioses, autant une inspiration que parfois une perte de confiance en moi où je me disais, mais de toute façon, j'arriverai jamais à faire ça de cette façon-là. Moi, je suis personne à côté, etc. Et où ça peut peut-être freiner. Et du coup, moi, j'ai vraiment à cœur de mettre justement cette humanité derrière ce que je peux faire et de faire transpirer le fait que je suis remplie de doutes en permanence et que j'hésite toujours, que voilà, je peine à faire ce que je fais, qu'il y a toujours des difficultés, que Fayard, je suis tombée pas tombé dessus en un claquement de doigts, mais qu'il y a eu vraiment de longs mois de doutes et de remise en question avant d'arriver chez eux. Et tout ça, il faut en parler parce que ce soit pour mon cas personnel et pour la vie de chacun, on a tous des moments difficiles qu'on invisibilise souvent parce que c'est pas sexy de montrer ça sur Instagram. Mais je crois que c'est hyper important aujourd'hui de remettre aussi un peu de vrai dans ce qui se passe derrière les réussites et les succès.
Les récits de... À 22 ans, tu as lancé Nouvel Oeil, je le dis parce que c'est assez exceptionnel pour le souligner, Nouvel Oeil, qui a donc effectivement invité de nombreuses personnes. Je l'ai cité, Augustin Trapenard, mais il y en a d'autres, Jean-Louis Etienne, Salomé Sacquet, Paloma Moritz également, donc du média Blast. Tous ces récits ont aidé également à avoir un autre discours, d'autres témoignages, effectivement. Quel est le point commun entre tous ces invités que tu as reçus au micro jeune de Nouvel Oeil?
Ils cultivent tous une forme d'engagement. Donc il y a toujours un lien avec l'écologie ou le développement personnel plus largement. Et je crois qu'une des choses qui les relie tous, c'est le fait d'oser. Ou du moins d'avoir osé à un moment donné dans leur vie.
Tu les lis à toi aussi ?
Oui, complètement. Et ils me donnent la force pour d'autant plus oser, je pense.
Oui, c'est ce que j'allais te demander. Est-ce que ça t'aide justement aussi au quotidien ? Est-ce que c'est un soutien de recevoir ces personnes ?
Clairement. Je pense qu'en 3 ans et demi de podcast, ça m'a formée. Ça a été vraiment l'école de ma vie. Et je me suis construite grâce à ces entretiens. Et chaque interview apporte une pierre en plus sur l'édifice de ma confiance personnelle. Et c'est à chaque fois des petites thérapies. En fait, ce podcast, je le fais avant tout pour moi. Et que j'ai une écoute ou 10 ou 10 000 ou 100 000, ça ne change rien. En fait, pour moi, c'est cette rencontre, j'ai envie de la faire. Et les questions que je pose, c'est des questions que je me pose avant tout. Et c'est peut-être pour ça aussi que ça a marché. C'est que c'est authentique, c'est brut. Et je pose pas des questions parce que on a dit, selon les codes du journalisme, qu'il fallait les poser comme ça et que c'est ça qui fait le buzz. Mais parce que ça vient profondément du cœur. Et donc, c'est des questions qui résonne chez beaucoup de personnes, tu vois, le sens d'une vie, l'amour, la confiance en soi, qu'est-ce qu'on fait de ce monde qui s'effondre, comment on rebondit face à tout ça, comment on réussit une vie. On est tous tiraillés par ces questions, qu'on ait 20 ans, 30 ans, 40 ans ou plus, en fait. Et je crois que c'est ça qui a fait que, en tout cas, qui m'a donné l'énergie pour oser continuer et faire, voilà, 154 interviews jusqu'à aujourd'hui. Et toutes ces personnes ont des idées atypiques qui me conforme d'autant plus dans cette idée que c'est possible d'avoir une vie atypique. Et ça m'a beaucoup rassurée, je pense, de voir ces personnages construire leur vie à leur façon.
C'est ce qui t'a fait tenir aussi vis-à-vis de la difficulté justement des multiples projets que tu soutiens ?
Oui. Ah oui, clairement, parce que c'est énormément de travail en fait. On se rend pas forcément compte de ce que c'est qu'une interview qui sort tous les lundis matins. Mais je suis toute seule à tenir la barque derrière, donc rechercher les invités. Tu dois bien voir ce que c'est que de préparer une interview. Oui. Là, je vois que t'as plein de feuilles avec plein de notes. Ça prend du temps. Et moi, vraiment, j'accorde une grande importance à la préparation de mes rencontres. Je passe une journée, parfois plusieurs journées à préparer mes rencontres pour vraiment écouter ce qui a été dit, fait sur cette personne, lire les livres qui ont pu être écrits, les articles qui ont été publiés. Et j'essaie vraiment de me mettre en fait dans la peau du personnage à chaque fois pour presque ressentir à sa place sa vie. Et comme mettre les lunettes de sa propre vie pour la voir avec son regard. Donc c'est un temps de préparation qui est colossal, temps de déplacement aussi parce que je vais toujours chez mes invités pour les interviewer. Il y a toute la partie éditoriale derrière, le montage, la communication. Et en effet, pour tenir ce rythme de un épisode par semaine, sur du long terme, c'est juste colossal. Et sans passion, sans profonde envie et flamme à l'intérieur de soi, je pense que cette flamme s'éteint quoi au bout de quelques mois, tellement c'est dur à porter, et d'autant que je fais d'autres choses à côté, en fait.
Mais c'est dur à porter, et puis c'est assez fou, parce que On n'a pas parlé du côté programmation, mais tu dis, voilà, moi, je suis née dans un milieu où j'avais pas forcément un carnet d'adresses, mais tu as réussi à toucher des personnes, ce qui est fou. Jamais on aurait pu se dire, bon, voilà, moi, je me lance dans un podcast, je vais toucher Jean-Louis Etienne, qui est impressionnant. Je vais toucher, Augustin Trapenard pour un côté plus littéraire. Je vais toucher Barbara Pravi. Ouais. Voilà. Comment tu as réussi? Je crois que c'est une question qui nous intéresse à tous.
J'ai pas de... En fait, tu vois, ça vaut pour tout dans la vie. On cherche toujours les comment, comme s'il y avait un plan parfait. On déroule A, B, C, et puis t'as la formule parfaite pour que ça marche. Et précisément, j'ai pas cherché de formule parfaite. Je crois que j'ai toujours écouté mon intuition et mon cœur. Et c'est, je pense, ce qui se ressent, en fait, dans mes démarches. C'est qu'on sent que j'ai vraiment un intérêt pour la personne et que c'est pas un message copié-collé que j'envoie et qui passera à la trappe. C'est vraiment un profond intérêt pour la personne. Et le fait que je sois jeune, que j'ose, peut-être que ça touche. En tout cas, j'ai l'impression que dans mes débuts, ça a été une force d'être jeune, d'être aussi jeune et d'oser le faire. Et après, il y a eu de la persévérance. Donc, pour certaines personnes, j'ai été chiante et je le reconnais. Hein, c'est que toutes les 3 semaines, je renvoyais un message. Et comme tu l'as fait par mail de « Ah, Victoria, on n'a pas eu de réponse. Au fait, on aimerait vraiment te recevoir, etc. » Et c'est ça qui paye, en fait, parce que c'est des personnes qui sont très sollicitées, qui ont leur boîte à mail pleine, leur messagerie pleine. Et quand ils voient toujours un message revenir, ils disent « Punaise, mais cette petite, elle est presque chiante, quoi que c'en est attachant. Donc, qu'est-ce qu'elle a vraiment envie de faire avec moi ?» Et donc, ouais, la persévérance, mais surtout l'authenticité, quoi. Je pense que les gens savent et sentent quand c'est vrai. Et c'est ce qui fait que ça marche ou que ça marche pas, je pense.
En tout cas, ça a marché parce que je reviens dessus. Tu as signé aux éditions Fayard. Ouais. Je suis contente de le répéter 3 fois parce que c'est assez exceptionnel.
Ça me permet de le réaliser peut-être aussi parce que je réalise toujours pas, moi.
Non, mais c'est incroyable. Effectivement, aussi après le succès de ce premier livre, Ce qu'on n'apprend pas à l'école, il me semble que tu es sur la rédaction d'un second ouvrage. Oui. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ce qui a guidé ta lecture, enfin ton écriture, de ce qui a aussi guidé les envies d'écrire, à quel sujet en fait finalement?
Pour l'écriture, je crois que j'ai jamais arrêté d'écrire. Depuis toute petite, j'écris, c'est comme une thérapie. J'ai jamais été voir de psy parce qu'on me disait que voilà, j'allais bien et que quand on va bien, on n'a pas besoin d'aller voir de psy. Et du coup, j'ai toujours écrit ce que je ressentais, ce que je vivais, ce qui me traversait en fait. Et l'envie d'écrire, elle m'a frappée au retour du voyage en Inde où j'avais un tas de questions dans ma tête, très peu de réponses, mais l'envie viscérale de les écrire pour essayer de dénouer un petit peu tout ce qui se passait en moi et pour mieux accepter ces remises en question. Donc j'écrivais, et plus j'écrivais, plus je me rendais compte que ça m'apaisait, que ça me permettait de m'accepter et de grandir beaucoup. Et un jour, je me suis dit, mais ces choses que je mets noir sur blanc, en fait, c'est des choses que j'aurais aimé qu'on me dise plus tôt, qui m'auraient beaucoup apaisée et que j'ai jamais lu à l'école, que mes parents m'ont jamais dit, que mon entourage m'a jamais dit. Et si c'est des mots qui m'auraient fait du bien, ça veut dire que ça aiderait peut-être d'autres personnes aujourd'hui qui se posent les mêmes questions, parce qu'on se pose tous les mêmes questions dans une vie, plus ou moins. Et donc, de ce constat-là, je me suis dit, OK, ben écoute, écris tous les matins et puis tu verras ce qu'il en sera. Et j'avais déjà la conviction que j'allais publier un livre, mais... j'étais confrontée à la réalité, entre guillemets. Donc, les gens qui te disent, mais t'as pas fait d'études littéraires. Et puis, il y en a qui cherchent toute leur vie à écrire un livre et qui n'y arrivent jamais. Et puis, mais t'étais pas légitime. Attends d'avoir de l'expérience. Attends. Tu dis toujours attends. Et c'était plus fort que moi. Je me disais, mais en quoi, à 40 ans, je serais plus légitime, en fait? Ce que je dirais, ça sera certainement différent. Je rigolerai peut-être de là ce que j'écris à 20 ans, mais ça sera pas pour autant moins vrai ou moins juste. Et donc j'ai tout fait pour que ce soit publié. J'ai mis un an avant de trouver une maison d'édition, et ça a été le début de tout, je crois, ce qu'on n'apprend pas à l'école. Et après, la vie a fait que ça s'est terminé avec cette maison d'édition et que j'ai pu rebondir chez une autre. Mais l'écriture ne m'a jamais lâchée, et j'ai toujours eu en fond cette petite voix qui me disait, mais t'en écriras un deuxième, et puis t'en écriras même un troisième. Et puis après, Margot, mon éditrice chez Fayard, m'a dit, mais tu sais, t'écriras toute ta vie. J'ai dit, bah oui, en fait, c'est vrai, j'écrirai toute ma vie. Et tu vois, ça rejoint le destin, je pense, dont je te parlais au début. Il y a des choses qui nous rattrapent, en fait, que on n'essaie pas trop de voir, mais qui sont toujours derrière le coin de la porte et qui nous font des coucous de temps en temps. Et l'écriture, c'est un peu ça pour moi, je crois.
Mais ce qui est important de comprendre aussi, et ce que j'entends dans ce que tu dis, c'est que tu écris sur des choses qui te touchent à toi. Mmh. Et donc, tu cherches pas forcément à trouver une histoire, à raconter quelque chose, un témoignage. C'est réellement ce qui te traverse. C'est les doutes, c'est les questionnements que tu as, les réflexions.
Complètement. C'est ce qui fait une vie, en fait. Donc, forcément, ces questions existentielles, elles sont un petit peu dictées par aujourd'hui la crise écologique qui nous frappe et qui, forcément, moi en tout cas, dicte tous mes choix au quotidien, qui a radicalement transformé ma vie et pour le mieux. Et ça, je tiens à le souligner parce que souvent, quand on parle d'écologie, c'est très anxiogène.
Oui, c'est assez rare d'avoir ce genre de, justement, de réponse parce qu'on n'a pas l'habitude.
Non.
On a l'habitude d'être très culpabilisé en permanence.
Ouais, et au contraire, moi, je trouve beaucoup de joie dans l'engagement. Et ça, il faut qu'on en parle parce que c'est ce qui permettra d'embarquer des gens avec nous dans ces nouvelles utopies. C'est de comprendre qu'en fait, on a tout intérêt à faire transiter nos vies vers plus de sobriété. Parce que quand on a ce fameux moins mais mieux, bah forcément, on a des petits poisons mentaux qui sont plus dans nos têtes de comment je veux m'habiller ce soir. Et puis, il y a les soldes, il faut que j'y aille. Et puis donc, à la fois d'un point de vue matériel, on se dépouille de beaucoup de choses. Donc, on se rend compte qu'on a aussi moins de besoins. Et quand on se dépouille, bah, ça laisse de la place pour d'autres choses, pour des réflexions plus profondes, pour de la méditation, pour du temps pour soi. Et moi, je fais vraiment un parallèle très direct entre l'écologie et le développement personnel, en fait. Et pour moi, il n'y a pas d'écologie sans écologie personnelle. Et c'est en ça que je crois que ça m'a beaucoup réalignée et en tout cas permis d'être beaucoup plus heureuse et joyeuse dans ma vie, de m'engager. Donc c'est vraiment un message qu'il faut porter aujourd'hui et que j'essaie de porter au maximum de cette écologie heureuse et joyeuse et cette sobriété heureuse, pour reprendre les mots de Pierre Rabhi.
Mais c'est assez précurseur parce que justement, on remarque à chacun de tes projets qu'il y a une forme effectivement de gaieté ambiante sur des sujets qui sont extrêmement lourds. Là, on va parler de Shimla, donc ce voyage que tu prépares jusqu'en Inde avec Johan, effectivement donc de 6 mois. Sur le thème de l'eau, enfin sur la cause de l'eau et les menaces qui touchent l'eau. Mais vous, voilà, on le voit vraiment une forme de dynamisme à parler de ça, à parler de ces sujets et à vraiment sensibiliser autour de toutes ces causes. Mais ça, c'est vraiment nouveau. Avant, il y avait vraiment un discours qui était extrêmement, dans l'urgence, dans le danger. Et je trouve que ça impulse un nouveau mouvement également. Mmh.
Mais à juste titre, parce que c'est urgent. Et
oui,
ça rend anxieux tout ça. C'est vrai que c'est des questions assez vertigineuses. On se dit, c'est quand même le monde qu'on connaît aujourd'hui qui est en train de s'effondrer. Mais là où il y a de la joie, c'est je pense qu'une fois qu'on a fait le deuil justement de ce monde qui s'effondre, on se dit comment on construit le monde de demain. Et donc en incarnant ce monde de demain déjà aujourd'hui, il y a beaucoup de joie à l'intérieur de ça. Et de stimulation aussi, c'est magnifique de se dire qu'on a une page blanche et que là on a l'opportunité en tant que génération de reconstruire tout un monde, toute une société qui aujourd'hui de toute façon est basée sur des facteurs de réussite qui ne sont pas viables. Ouais. Et on le voit aujourd'hui avec de plus en plus de burn-out, de personnes qui font transitionner leur vie, voilà, il y a des ruptures un petit peu dans tous les sens, d'autant plus depuis la crise du Covid aujourd'hui, qu'on a eu il y a quelques années. Et donc, oui, la joie, forcément, elle arrive à un moment donné. Et je pense qu'elle est même essentielle, parce que sinon, la haine et la colère, ça nous mine sur le long terme, ça nous abîme.
Oui, et puis elle marque, parce que voilà, on parle beaucoup d'éco-anxiété, qui touche justement cette génération des millennials. Donc, je pense que là, on est un petit peu à un tournant de l'engagement. Mm-hmm. Voilà. Et c'est grâce à ce genre de projet, justement, qui émane, qu'on réussit à se dire qu'effectivement, ça peut composer de l'action, une action qui est concrète, et on s'enferme pas dans une forme d'éco-anxiété, justement, qui nous bloque, qui tétanise aussi, peut-être.
Après, je crois qu'il y a différentes formes d'engagement. Et il y a cet engagement très militantiste dans la colère, dans l'urgence qui est là et qui restera là et dont on a besoin, en fait. On a besoin de gens qui aillent taper, qui aillent manifester avec parfois de la force parce que ça fait bouger les choses aussi. Moi, c'est une forme d'engagement que j'ai essayé et qui me correspond pas fondamentalement. Et je crois à un militantisme beaucoup plus doux. Donc c'est en ça que je prône l'importance de la joie et que je la mets au cœur de tous mes projets. Mais je pense pas que tout l'engagement est en train de transiter vers la joie, parce que ça serait une erreur, je pense, de tous aller vers cet engagement-là. Et encore une fois, on a besoin de tout.
Oui, d'où la pluralité des engagements, parce que maintenant, effectivement, on parle de désengagements comme les tiens qui, comme tu le disais, sont un peu plus doux, mais il y a une forme de désobéissance civile aussi qui apparaît, qui est nécessaire aussi.
On en a
certains besoin.
Ouais.
On en a besoin.
Dans tous les milieux, de toutes les formes, on a besoin de tout le monde et il n'y a pas
mais
de cause.
Mais c'est tout le débat aussi. C'est est-ce que agir aujourd'hui, c'est désobéir. Aussi, il y a cette question qui effectivement, aujourd'hui, fait surface.
Oui. Oui. Après, c'est pareil, il y a différentes formes de désobéissance. Quelque part, moi, je désobéis en ne prenant pas un CDI, en ne faisant pas défiler ma vie de façon parfaite et linéaire, en arrêtant de consommer. Si tout le monde vivait comme moi, à ne plus rien acheter de neuf, à ne plus faire les soldes, à ne plus participer à cette société de consommation et à ne pas prendre de CDI et à vivre de liberté, le modèle actuel de société s'effondrerait, en fait. Donc, c'est une forme de désobéissance, quelque part, la façon dont j'ai décidé de vivre ma vie. Et en effet, quand on se questionne un petit peu, on peut pas dire oui à tout. On peut pas être des petits moutons parce qu'on voit que être des petits moutons, ça nous amène quand même dans le mur, là, aujourd'hui. Donc oui, la désobéissance, elle est même nécessaire, je pense.
Donc Chim, là aussi, on le sait, c'est un appel à l'action également. Tu vas nous en parler, Chim, là, c'est ce voyage donc de 6 mois que tu vas réaliser. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Vous avez quand même, et ça je le souligne, eu un financement participatif énorme, il me semble de 21 000 euros. Je le souligne parce que vraiment il y a une cohésion, il y a quand même une forme de soutien autour de ce projet qui est au-delà des espérances. Et je trouve que ça donne de l'espoir.
Ah tellement, t'as mis le mot, c'est de l'espoir. Vraiment quand on a vu l'engouement qu'a pris le projet, et la façon dont tout le monde s'en est emparé, on s'est dit mais waouh, en fait c'est pas juste le projet de Johan et Victoria, c'est le projet de tout le monde et c'est trop beau de voir la cohésion qu'il peut y avoir derrière. Et du coup j'en profite pour remercier tous les donateurs et donatrices qui ont pris part au projet parce que c'est sans ça on pourrait pas partir en fait. Donc on a cette campagne de financement participatif qui a été un vrai soutien. On a des sponsors aussi qui nous soutiennent. Et oui, ça fait un an qu'on prépare ce projet. Donc, en quelques mots, on rejoint l'Inde sans prendre l'avion pour faire un documentaire sur les enjeux de l'eau dans le monde. Donc, on va traverser toute l'Europe, ensuite la Turquie, l'Égypte, l'Arabie Saoudite, Oman. Ensuite, on va traverser toute la mer d'Arabie en faisant du bateau stop. Puis, on remonte toute l'Inde. Et après, pour le retour, c'est encore un petit point d'interrogation. On espère arriver à rejoindre la Russie et à rentrer par le Transsibérien. Donc voilà, on part dans 3 semaines et ça me paraît irréel. C'est fou.
Et vous partez donc le 29 septembre.
C'est ça.
Voilà, date que vous avez révélée ce matin. pendant tout ce périple, vous allez soutenir, enfin, en tout cas, vous allez aller à la rencontre des personnes et surtout des projets qui guident les pays à travers l'eau aussi, cette cause. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Comment vous avez réussi à cibler? Est-ce qu'il y a déjà une préparation en amont?
Oui, il y a une grande préparation en amont. On a vraiment identifié des projets locaux dans chaque pays qu'on va rejoindre, qu'on va documenter, qu'on va filmer et auxquels aussi on va participer. On a vraiment envie, nous, de ressentir dans notre chair ce que vivent les gens, face à quelles problématiques ils sont confrontés aujourd'hui, comment ils s'adaptent, quelles sont les solutions qu'ils ont trouvées. Donc à la fois, l'idée de ce documentaire, c'est de faire un constat sur la situation telle qu'elle est, brute, de l'eau dans le monde aujourd'hui, parce que c'est quand même grave ce qui se passe. On s'en rend pas forcément compte, mais d'où l'intérêt d'avoir voulu mettre le sujet de l'eau en avant, parce qu'on parle de réchauffement climatique, etc., mais on se rend pas compte que tout est lié et tout part de l'eau. Et au-delà de ça, l'eau, c'est des cycles en fait qu'on est en train de complètement bouleverser. Et nous, on a envie de démocratiser et de vulgariser ces sujets-là, lié à l'eau, mais aussi de montrer des solutions pour ne pas encore une fois tomber dans la léthargie parce qu'on a peur et parce qu'on nous dit que c'est urgent et que c'est très grave ce qui se passe, mais de montrer oui il y a des solutions, oui c'est grave, mais regardez, on vous tend le bras et on agit ensemble. Et ça, on veut vraiment l'incarner avec Johan. Donc chaque pays à sa problématique liée à l'eau qui est identifiée. Donc, par exemple, en Arabie Saoudite, on va traiter de la désalinisation. En Inde, on va, voilà, je veux pas tout spoiler, mais on a pas mal de projets qui sont déjà identifiés, de personnes locales qui nous attendent, et ça va être fou. Ça va être incroyable.
Il y a une autre préparation, celle de la réalisation. C'est une autre discipline, là, que tu abordes avec le projet de Chimla. Comment tu t'y prépares exactement? C'est intéressant de savoir, vraiment, tu vas avoir une autre corde à ton arc.
Ouais.
Et alors, comment tu t'es préparé? Est-ce que tu as fait appel aussi à des personnes qui s'y connaissaient déjà, à des professionnels?
On a acheté une caméra.
Oui.
On a acheté une belle caméra et on a fait une journée de formation avec une fille qui nous a appris les bases, en fait, de la vidéo, de la photo. Et après, on fait tout en autodidacte. Donc, on a acheté des livres et on regarde des vidéos. Et puis après, on s'entraîne aussi. Donc, à filmer, à apprendre. Et on apprend tout sur le tas. Donc aujourd'hui, on est encore on a tout à apprendre en fait, très honnêtement, je reprendrai les mots d'Orelsan, c'est si tu veux filmer, t'as juste besoin d'un truc qui filme. Et je pense que de toute façon, c'est, on le sait, on en est conscient avec Yoann, on sera pas parfaitement filmé. On peut pas apprendre un métier comme ça en quelques mois. Non. Donc ça sera brut, ça sera authentique. Et c'est ce qui va faire, on espère, aussi la force du film, de montrer qu'on n'a pas forcément toutes les compétences, mais qu'on y va quand même. Et ce qui compte, c'est le fond, c'est ce qu'on va partager, c'est l'humanité, le contenu, en fait. Pas forcément la forme, mais le contenu qu'on va ramener de ce voyage. Donc voilà, réalisation, on apprend, mais on n'aura jamais assez... assez fini d'apprendre, je pense, avant le
ça
départ.
Ça me fait penser aux artisans de demain, il me semble que tu connais, justement, qui
Camille
sont partis.
Elias.
Oui, Camille, Elias, exactement. Qui sont partis et qui, justement, ont pris une caméra sans avoir forcément d'expérience et qui ont filmé. Et en fait, c'est un soutien aussi énorme de leur côté. Effectivement, je pense qu'il n'y a pas besoin forcément d'avoir, de toute façon, une formation pour réaliser, comme dit Aurel San. Si t'as besoin de filmer, effectivement, t'as besoin de quelque chose qui filme.
Mais ça, c'est un truc qui vaut pour tout dans la vie. Tu vois, souvent, on se met des barrières parce qu'on se dit, ah, tiens, j'ai pas tel diplôme. Et puis, en fait, je sais pas écrire. Et puis, en fait, je sais pas faire des podcasts. Et puis, j'ai pas le matériel. Et puis, ci, et puis ça. Et en fait, on se trouve tellement de épuis qu'on fait pas les choses. Et je crois qu'il y a rien de plus puissant que le passage à l'action. Et tu vois, moi, ce podcast que j'ai lancé il y a 3 ans et demi, je savais pas du tout comment faire un podcast. Je me suis lancée la fleur au fusil en me disant, j'ai envie de le faire. Et après, petit à petit, j'ai imbriquer les briques, mais je savais pas du tout utiliser le matériel, je savais pas poser des questions, je savais pas faire le montage, et j'ai tout appris sur le tas. Et ça, c'est peut-être une vraie un vrai message qu'on peut partager à celles et ceux qui nous écoutent. Là, ça vaut pour le film, pour le podcast, mais ça vaut pour quel que soit le projet ou le rêve que tu as, en fait. Tu peux le faire, il faut juste passer à l'action. Et parfois, se poser trop de questions, ça nous freine plus qu'autre chose, je crois.
Mais je crois qu'on peut finir sur ces jolis mots. Et puis en plus, la boucle est bouclée parce que je parlais de liberté, effectivement. Et là, tu viens d'exprimer du mieux que possible, en fait, la liberté. Ouais, et cette liberté d'esprit qui t'a guidée pendant toute cette carrière de podcast, d'écrire. Vraiment, s'il y a quelque chose à retenir de cette interview, c'est qu'il ne faut pas se mettre de barrière, que tout est possible, finalement. Donc merci, merci Victoria, vraiment pour ces mots. Merci d'avoir accepté cette invitation. Merci d'être venue sur Carte Blanche pour nous parler donc de ta carrière et puis de ces beaux projets de Shimla. Encore félicitations une quatrième fois pour cette signature aux éditions Fayard.
C'est la cinquième fois.
Cinquième fois. Non mais je voulais.
Merci beaucoup,
merci
Juliette.
Beaucoup.
C'était trop chouette. Merci. Merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'ici. Si ce moment t'a plu, n'hésite pas à le partager, à laisser quelques étoiles sur iTunes et Spotify, ou à faire une story sur Instagram pour que je puisse te repartager. Tu peux aussi me suivre au quotidien et m'écrire sur la page Instagram Nouvel Oeil. Sur le site internet www.nouveloeil-podcast.com, tu pourras aussi t'abonner à ma newsletter. J'y partage des inspirations, des nouvelles, des astuces et des petites choses qui font notre quotidien. En attendant le prochain épisode, je te souhaite de savourer la vie comme il se doit, et surtout... de faire des choses folles.